franceinter.fr. La revue de presse d'Olivier Bénisse. Bonjour Olivier.
Bonjour Patricia.
À lire ce matin dans le journal du dimanche, le plaidoyer pour une primaire à gauche de Jean-Christophe Cambadélis.
L'appel est clair, le discours parfois un peu moins. C'est bien simple, il faudrait presque un traducteur pour saisir le sens de certaines phrases un peu énigmatiques du premier secrétaire du Parti Socialiste, comme « mon problème ce n'est pas la clarification », on avait remarqué, c'est la qualification. On cherche aussi toujours le sens caché de cette phrase. En 2017, il ne s'agira pas de témoigner mais de gagner. Allez, on taquine. Mais ce qui est clair en revanche, c'est le timing pour Jean-Christophe Cambadélis. La primaire doit avoir lieu en décembre ou en janvier, dans tous les cas après celle de la concurrence, puisque chez les Républicains, on désignera son candidat en novembre. Autre souhait, que ce soit la primaire de toute la gauche et le premier secrétaire de résumer en une petite phrase assassine le flou artistique au front de gauche. Pierre Laurent a l'air partant, Jean-Luc Mélenchon a l'air parti et Clémentine Autain est observatrice. Il y a au moins trois positions, il faut clarifier tout ça. Primaire ou pas, pour Jean-Christophe Cambadélis, le candidat le plus crédible par temps de crise, c'est le président de la République. S'il était candidat, il n'aurait pas obligation de participer à tous les débats, il ne ferait pas le tour de France, il n'a pas de problème de notoriété. Les mauvaises langues diront que c'est peut-être ça justement le problème. Lui pourrait bien être candidat à la candidature et sans doute plus tôt qu'on ne le pense. Arnaud Montebourg prépare son retour, c'est Le Monde qui nous l'affirme ce dimanche. Pour Le Quotidien, il n'y a guère que ses proches pour encore faire semblant d'entretenir le suspense. L'ancien ministre de l'économie et du redressement productif, en pleine assaise médiatique, aurait même accéléré le tempo ces derniers temps. En 2017, c'est décidé, il sera le petit patron qui se présentera à la présidentielle et tant pis si son parcours de professionnel de la politique depuis 20 ans ne colle pas. Un de ses amis l'affirme, il ne veut pas faire de figuration ni présenter une candidature de témoignage, décidément. L'objectif, c'est d'être qualifié au second tour. Le plus dur, ce sera peut-être de passer le cap de la primaire. Arnaud Montebourg, les frondeurs, s'en méfient, nous explique Le Monde. Trop instable, pas assez sûr, à moins qu'il ne fasse le choix de la candidature en solo. Même si son entourage le promet, il ne veut pas être le Taubira ou le Chevènement de 2017, celui qui serait tenu pour responsable de l'élimination de la gauche au premier tour.
Faut-il fermer le palais d'Élysée ? C'est une question sérieuse, ça, ou pas ?
C'est une très grande question que se pose le Parisien ce matin. Une question qui, en plus, n'est pas neuve, nous explique-t-on. Lorsqu'il était jeune conseiller de François Mitterrand, François Hollande se demandait si la gauche était compatible avec le faste de l'Élysée, son protocole sourcilleux, ses gardes républicains en épée et ses huissiers à chaîne d'argent. Une question que l'actuel président se pose encore, comme lorsqu'il confie un peu là, lors des défilés contre le mariage pour tous. Il pourrait y avoir la guerre dehors, on ne s'en rendrait pas compte. Nathalie Chuc explique aussi que ce palais, si prestigieux soit-il, est coûteux et peu pratique. Les moindres travaux de restauration coûtent une petite fortune, 30 millions d'euros dépensés entre 2008 et 2011. Pire, les règles pour pouvoir les effectuer sont drastiques. Les ouvriers ne peuvent travailler que si le président est absent et ils doivent pourtant venir régulièrement, parfois en urgence, comme en février 2015 quand il s'était mis à pleuvoir en pleine conférence de presse de François Hollande dans la salle. Partir, ce serait donc une solution. Tout le monde y a déjà pensé, mais personne ne le fait, conclut le Parisien avec ces mots de Jack Lang. L'Élysée, c'est une bonbonnière, un endroit désuet. On pourrait imaginer un lieu plus moderne, mais ça n'arrivera jamais. Nous sommes tellement conservateurs. À lire aussi ce matin dans le JDD, un entretien avec maître Karine Delaby-Fort, avocate qui défend Patrick Henry, condamné à la perpétuité en 1977 pour le meurtre d'un petit garçon, libéré en 2001 et condamné à nouveau un an plus tard, cette fois pour une affaire de drogue. Il fait cette semaine une nouvelle demande de libération conditionnelle et son avocate l'assure, il n'y a plus d'obstacle à sa sortie, si ce n'est un obstacle symbolique. Patrick Henry a été le détenu le plus détesté de France, il a failli être décapité, il a vécu des années en isolement. J'assiste un homme de 62 ans qui a payé sa dette à la société. Il faut arrêter de vouloir le rejuger pour des faits d'il y a 40 ans. Pour elle, le cas de Patrick Henry pose aussi plus largement la question de la volonté de réinsertion des détenus. En 2001, il est incarcéré depuis 25 ans, elle raconte-t-elle. Il a subi des tas d'examens psychiatriques, mais personne ne lui a proposé de psychothérapie. Quand il sort, il n'est pas prêt. Il était tellement mal à l'aise qu'il avait recréé sa cellule dans son appartement. Et elle cite également les pays scandinaves où, selon elle, on prépare les détenus à la sortie et il y a beaucoup moins de récidives.
Le journal Le Monde se demande aujourd'hui ce qu'il faut faire des images de propagande de l'organisation État islamique.
C'est une question qui agite les rédactions des télévisions françaises depuis plusieurs mois. Doit-on les diffuser, ces images, les considérer comme une information ou comme une propagande ? Le Monde ne tranche pas, mais évoque les débats justement qu'elle suscite presque au quotidien chez les journalistes. Chez France Télévisions, par exemple, Michel Field, le nouveau patron, explique qu'on analyse au cas par cas. On peut parler d'une image sans la montrer, mais il faut être extrêmement vigilant pour ne pas être instrumentalisé. Même numéro d'équilibriste pour Hervé Béroux, directeur de l'information de BFM TV. C'est un phénomène nouveau et complexe auquel nous n'avons pas encore trouvé de bonne solution, reconnaît-il. Nous trions les séquences, nous les utilisons comme images d'illustration tout en les remettant dans leur contexte. Personnellement, je pense qu'il faut montrer ces images, sinon il pourrait se développer une théorie du complot. Pour Marie-Josée Montzin, philosophe spécialiste de l'art et des images, il faut de toute façon s'habituer à voir ces questionnements revenir de plus en plus souvent. Selon elle, il n'y a déjà plus une guerre des images et une guerre sur le terrain, mais bien une seule et même guerre menée sur le double terrain des armes et de l'image. L'image est traitée comme une arme. Allez, on passe à une toute autre guerre, nettement moins sanglante et sordide, une guerre économique, celle dans laquelle est prise Ubisoft, troisième éditeur mondial de jeux vidéo. C'est ce que nous raconte le JDD aujourd'hui, façon Astérix chez les Bretons. Ici, Yves Guillemot, le PDG et fondateur, serait un peu le chef du village gaulois, et Vincent Bolloré, qui grignote petit à petit son capital, un Jules César, expert en stratégie plus ou moins fourbe. Son dernier coup, une offre de rachat de Gameloft, dirigée par le frère d'Yves Guillemot, Michel, pour tenter de semer la discorde dans la famille. Si on était chez Goscinny et Uderzo, ce serait l'album La Zizanie, si l'on en croit Mathieu Pechberti qui signe le papier. Avec d'un côté la famille Guillemot, venue de Carantoire dans le Morbihan, qui se disent vrais et discrets bretons face au médiatique Bolloré, né à Paris, mais qui met en avant son fief finistérien d'Ergué Gabéric dans la bataille pour le contrôle du pixel français. C'est à qui sera le plus breton.
Et l'on termine avec un joli hommage à Umberto Eco.
Les hommages officiels, vous les avez tous lus ou entendus depuis hier, en voici un très personnel pour refermer cette page. Umberto Eco m'a appris à lire, nous dit Ondine Bénetier sur Slate. Pas au sens propre, non, c'est plus subtil. Elle y raconte le paradoxe de son enfance, une petite fille qui adore écrire mais qui déteste lire. Pour elle, la lecture était synonyme d'ennui, de temps qui passe lentement, de descriptions interminables, d'enfermement, de tristesse et même de limitation de l'imagination, n'en jetait plus. Jusqu'au jour où des voisins de classe préparatoire lui parlent d'un livre qu'ils ont adoré et qu'on ne les a même pas obligés à lire. Ça s'appelle « Comment voyager avec un saumon ». Il lui amène le lendemain en lui jurant qu'elle trouvera ça génial. La jeune femme s'y plonge et raconte qu'elle a immédiatement ri. Pas souri, ri aux éclats. Je n'avais jamais ri en lisant un livre. Avec ce roman qui n'en est pas un, c'est tout un monde de possibilités qui s'est ouvert à moi. Exactement, ce n'est pas vraiment un roman. Un monde où la lecture pouvait me faire ressentir des émotions aussi fortes que celles de la vraie vie. Des émotions qu'elle a voulu faire partager à l'auteur lui-même. Elle lui a envoyé un mail en italien où elle lui a raconté son histoire et surtout ce fléau de la vie qu'ils partagent tous les deux, les jeux de mots sur leurs patronymes respectifs. Surprise, Umberto Eco lui répond indigné « Mais quel genre de gens fréquentes-tu ?» Ce mail finira imprimé et précieusement rangé dans la boîte à souvenirs de la lectrice convertie à côté des photos de son chien qu'elle a appelé Eco.